Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 18 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Sibulia
et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Dans quelques instants, le journal de la Cannes avec Emmanuel Junta.
L'ONU a suspendu temporairement ses vols réguliers au Mali pendant que se poursuivent les discussions avec les autorités de Bamako.
Le président déchu de la Guinée, Alpha Condé, a quitté hier son pays pour l'étranger avec l'accord de la junte au pouvoir.
La répression au Soudan a fait hier 7 nouveaux morts parmi les manifestants anti-putsch.
Une quarantaine de migrants ont perdu la vie dans un naufrage au large du Maroc alors qu'ils tentaient de se rendre en Espagne.
Washington promet de faire rendre des comptes aux rebelles houthis du Yémen après une attaque meurtrière contre les Émirats arabes unis. Ce sont là quelques-uns des titres de cette édition.
Les groupes B et C achèvent ce mardi les matchs de poule devant désigner les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Cannes. 4 matchs sont au programme. De Yaoundé, le journal de la Cannes avec Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. L'affiche la plus en vue est prévue dans le groupe C et se dispute au stade Omnisports de Yaoundé. Le Maroc, 6 points, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, affronte le Gabon, dont un match ne le suffirait pour distancer le Ghana à l'affût avec 1 point. Les Black Stars jouent leur va-tout à Garoua contre les îles Comores. André Ayou, le capitaine du Ghana.
On va faire en sorte de gagner le prochain match contre les Comores et j'espère que les 4 points vont nous suffire pour passer au prochain tour.
Duel à distance également dans le groupe B entre la Guinée-Conakry, le Sénégal 4 points chacun et le Malawi 3 points. Dans ce chassé-croisé, ce sont les Lions de la Teranga qui croisent un adversaire qui conserve encore toutes ses chances de qualification pour le second tour. C'est donc le match à ne pas perdre pour Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal.
Un match important, je dirais, pour notre qualification. Nous avons envie de finir premier de cette poule-là pour plusieurs raisons. Donc, pour que cela puisse se faire, il faut effectivement qu'on approche les 3 points. Nous préparons ce match-là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sérieux, comme vous le dites aussi. On a aujourd'hui la joie de retrouver l'ensemble de notre effectif au complet. Ça, c'est très bien pour le mental, c'est très bien pour les choix qu'on mettra en place du fait qu'on a quand même l'ensemble de notre effectif. Bien sûr que nous savons que nous allons faire face à une équipe motivée, une équipe qui va jouer avec ses valeurs. S'y rajoutent aussi, ils ont des individualités aussi devant, capables de faire la différence.
Aliou Cissé, au micro d'Amédine Si. La Guinée-Conakry va tenter d'arracher les 3 points de la victoire face au Zimbabwe au stade Omnisports de Yaoundé. Coup d'envoi de Sénégal-Malawi et Guinée-Zimbabwe à 16h, temps universel. Hier, dans le groupe A, match nul, un but partout entre le Cameroun et le Cap-Vert. Score identique à l'issue de la rencontre Burkina Faso-Éthiopie. Les Lions indomptables et les étalons se qualifient pour le second tour. Une qualification pas convaincante pour les supporters des étalons du Burkina dans les rues de Bobo-Dioulasso, nous dit notre correspondant Alidou.
On est loin de la ferveur populaire que Bobo Dioulasso a connue lors de la sortie victorieuse du 11 national contre le Cap-Vert. Oui, ce sont des supporters déçus de la prestation des étalons qui ne croient plus trop en l'avenir de cette formation dans cette compétition.
Bon, c'est que si on est qualifié, mais nous ne sommes pas contents. Parce que c'est victoire, vous voyez. Les buteurs aussi, bon, ça ne va pas là-bas aussi.
Voilà, mais comment vous voyez la suite de la compétition pour le 11 national?
Bon, ça va un peu, mais vraiment, on est découragé aujourd'hui parce qu'on s'entendait beaucoup aux victoires. Mais malheureusement, bon, comme on est qualifié, ça va.
Tout ce qui est là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Erreur du milieu, erreur d'attaquant.
Donc, en gros, rien ne va.
Rien ne va. Rien.
Cette piètre performance des étalons du Burkina a réellement sémé le doute dans le cœur des amateurs du ballon rond. Alidou Ouédraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
En noter que le Cap-Vert peut se retrouver parmi les meilleurs troisièmes. Le coup de sifflet du jour de Jules-Valentin Ngoué depuis Libreville concerne justement le classement final de la poule A où était logé le Cap-Vert.
Bonjour. Dans une poule où le quintuple champion d'Afrique, le Cameroun semblait destiné à survoler les débats, beaucoup de choses se sont passées. Tout d'abord, les Lions indomptables, contre toute attente, se sont heurtés à la vive résistance d'un Cap-Vert que peu de spécialistes négligent à assimiler à un Sénégal bis. Il faudrait pour cela au moins se rappeler que Patrick Vieira, le célèbre champion du monde français de 98, et Tony Silva, le grand gardien sénégalais des années 98-2006, sont des produits de ce grand vivier, amélioré par les contacts avec le grand Brésil. Il faudrait aussi se rendre compte que le Burkina Faso, la nation la plus émergente de ces dernières décennies, qui prenait 7 buts en Afrique du Sud en 1996, mais était finaliste sur le même site en 2013, a réussi à remplacer la génération dorée des Traoré, Pitroipa, Kone, Bansé, Kabore et autres Nakulma en un tour de main grâce à une politique de formation sans précédent. Il faudrait enfin se rappeler que l'Éthiopie, diminuée par une exclusion précoce au premier match, a fini par nous démontrer qu'en fin de compte, n'aligner que des joueurs évoluant qu'en Afrique n'était pas une curiosité touristique. En fin de compte, que cette poule a réussi à avoir 3 qualifiés probables au lieu de 2 n'est qu'une récompense méritée.
C'est tout pour le journal de la CAN. Alidou Ouédraogo, Amédine Sy, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, les vols réguliers des aéronefs de l'ONU au Mali ont été suspendus temporairement. L'annonce est du porte-parole des Nations Unies qui précise que des discussions avec les autorités maliennes sont en cours. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon Stéphane Dujarric, l'organisation a dû s'adapter à la nouvelle situation. Cela concerne particulièrement les vols réguliers qui ont été temporairement suspendus. Mais il ne précise pas si cette nouvelle situation était due aux sanctions prises récemment par la CEDEAO contre la junte militaire au pouvoir et qui inclut une fermeture de frontières. Nous sommes actuellement en discussion avec nos partenaires maliens sur les nouvelles procédures qu'ils ont mises en place pour approuver les vols de l'ONU, a aussi affirmé Stéphane Dujarric. Des mécanismes ont été proposés par les autorités maliennes la semaine dernière et nous sommes confiants qu'une solution pourra être trouvée dans les plus brefs délais qui nous permettra de reprendre le fonctionnement normal de nos services conformément à notre mandat, a-t-il précisé. La force des casques bleus MINUSMA, comme la France, très présente militairement dans la région, effectue constamment des vols entre la sous-région et le Mali.
Le président déchu de la Guinée, Alpha Condé, a quitté hier son pays pour l'étranger avec l'accord de la junte au pouvoir. Cette dernière avait autorisé fin décembre M. Condé, 83 ans, à quitter le pays pour des examens médicaux. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Aucune confirmation officielle de son départ et de sa destination n'a été obtenue, mais le site d'information Guinée News a rapporté qu'il s'était envolé pour les Émirats Arabes Unis. Un fonctionnaire en service à l'aéroport international de Conakry a indiqué à l'AFP que M. Condé était parti à bord d'un avion privé. On avait demandé à tous les travailleurs de l'aérogare national près de l'aéroport international de quitter les lieux, a-t-il fait savoir. Conakry passe pour avoir rechigné à le laisser quitter le pays, redoutant des menées de la part de l'ancien président contre le nouveau pouvoir. Sa libération faisait toutefois partie des exigences de la CEDEAO, la communauté des États ouest-africains, avec la tenue d'élections dans les 6 mois. À la tête du pays pendant près de 11 ans, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Il a été détenu au secret pendant 12 semaines jusqu'à ce que la junte l'autorise à résider chez son épouse dans la banlieue de Conakry. Alpha Condé a été autorisé à quitter la Guinée alors que la justice vient d'ordonner l'ouverture d'investigations sur les crimes présumés commis sous sa présidence.
crise soudanaise, 9 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé hier, dans une déclaration commune, toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Le Soudan continue d'être le théâtre de violences meurtrières lors des manifestations contre le pouvoir militaire. Les détails avec Jenny Kapumbu-Villa.
Nous exprimons notre grave préoccupation concernant le coup d'État militaire au Soudan le 25 octobre 2021, affirme leur texte lu par l'ambassadeur du Mexique à l'ONU, Juan Ramón de la Fuente, au nom de son pays, de l'Albanie, du Brésil, de la France, du Gabon, du Ghana, de l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni. La déclaration, publiée après une réunion du Conseil de sécurité avec le procureur général de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan, appelle aussi les parties à s'abstenir de recourir à la violence et souligne l'importance du plein respect des droits humains, y compris les droits de réunion pacifique et la liberté d'expression. Depuis les coups d'État par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, au moins 71 manifestants ont été tués, dont 7 ce lundi. D'autre part, la police a indiqué qu'un de ses généraux avait été poignardé mort jeudi.
Ajoutons que l'émissaire spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, et la secrétaire d'État adjointe Mualifi ont entamé hier une tournée en Arabie Saoudite et au Soudan pour tenter de relancer le dialogue. Ils demanderont aux autorités soudanaises de mettre fin à la violence contre les manifestants, selon le département d'État.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande lui aux parties libyennes de travailler ensemble pour tenir dans les meilleurs délais des élections inclusives et crédibles. Dans un rapport émis hier au Conseil de sécurité, il a également insisté sur la nécessité d'un retrait total des Libyens, des mercenaires et forces étrangères.
Censé être l'aboutissement d'un processus de paix parrainé par l'ONU, la présidentielle du 24 décembre et les législatives prévues dans la foulée ont été reportées sine die sur fond de désaccord entre le pouvoir à l'est incarné par le Parlement et l'homme fort Khalifa Haftar et un autre à l'ouest autour du gouvernement d'unité nationale d'Abdelhamid Dbeiba, basé à Tripoli.
Les Ougandais étaient confrontés hier à une pénurie de carburant qui a fait monter les prix en flèche, alors que des centaines de camions de carburant et autres marchandises sont bloqués dans d'énormes embouteillages à la frontière avec le Kenya. Selon la ministre de l'Énergie, Ruth Nangambirwa, ces retards à la frontière pour l'entrée en Ouganda étaient dus à un scanner défectueux utilisé par les douaniers pour contrôler les véhicules et à des problèmes concernant le COVID-19. Les autorités effectuent des tests obligatoires de dépistage du coronavirus.
43 migrants, dont 3 bébés et 14 femmes qui tentaient de gagner les îles Canaries en Espagne, ont péri dimanche après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc, a annoncé hier l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Parmi les 43 migrants morts, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, seules 2 dépouilles ont pu être récupérées.
10 personnes de l'embarcation ont pu être secourues, selon la même source. Un bilan qu'elle a publié début janvier, plus de 4000 migrants sont morts ou ont disparu l'an dernier lors de leur traversée à mer vers l'Espagne, soit 2 fois plus qu'en 2020. Les corps de la quasi-totalité d'entre eux, 94%, n'ont jamais été retrouvés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN et l'Ukraine ont signé hier à Bruxelles, en Belgique, un accord qui prolonge et renforce leur coopération contre les cyberattaques. Il intervient 3 jours après le vaste piratage informatique qui a ciblé plusieurs ministères ukrainiens en Italie.
Il s'agit d'un protocole d'accord renouvelé qui approfondit la collaboration nouée entre les deux parties en 2015. L'OTAN va approfondir sa collaboration avec l'Ukraine pour l'aider à moderniser ses services de technologie de l'information et de communication, tout en identifiant les domaines dans lesquels une formation pourrait être nécessaire pour son personnel. Nous prévoyons d'introduire davantage de technologies et de services d'information modernes dans le système de commandement et de contrôle des forces armées ukrainiennes, a déclaré l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'OTAN, Nathalie Galibarenko. L'accord intervient environ une semaine après que le ministère ukrainien de la transition numérique a subi un piratage qu'il pense être une manifestation de la guerre hybride que la Russie livre à l'Ukraine depuis 2014. Dimanche, l'Ukraine avait affirmé avoir des preuves de l'implication de la Russie dans cette cyberattaque. Les tensions entre Moscou et Kiev ont donné lieu la semaine dernière à une séquence diplomatique intense entre Russes et Occidentaux à Genève, Bruxelles et Vienne, sans permettre de sortir de l'impasse. Selon des experts, une éventuelle invasion pourrait être précédée d'un sabotage informatique visant à désorganiser les autorités ukrainiennes. L'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent Moscou d'avoir déployé près de 100 000 soldats à sa frontière en vue d'une agression.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appelle à une action internationale pour mettre fin au conflit armé dans la région du Sahel central, un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes et qui a causé le déplacement de plus de 2,5 millions au cours de la dernière décennie. Reportage de Lisa Schlein à Genève, récit d'Eric Manirakidza.
Selon les données de Armed Conflict Location and Event Data Project, une organisation non gouvernementale spécialisée dans la collecte de données ventilées sur les conflits, l'analyse et la cartographie des crises, les violences au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont causé plus de 4660 décès au cours des 6 premiers mois de 2020. Les statistiques d'autres groupes de surveillance internationaux et d'agences de l'ONU montrent que les déplacements internes dans la région du Sahel central ont décuplé depuis 2013, passant de 217 000 à 2,1 millions fin 2021. Boris Tchetcherkov, porte-parole de l'ONU pour les réfugiés, affirmait que les déplacements continuent de croître dans tout le Sahel, les civils fuyant les attaques violentes.
Les groupes armés auraient mené plus de 800 attaques meurtrières l'année dernière. Ces violences ont obligé 450 000 personnes à quitter leur foyer et forcé 36 000 autres à fuir vers un pays voisin en tant que réfugiés. Les femmes et les enfants sont souvent les plus touchés et sont exposés de manière disproportionnée à une extrême vulnérabilité et à la menace de la violence sexiste.
Selon M. Tchetcherkov, les conditions continuent de se détériorer dans toute la région. Il affirme que les communautés d'accueil et les autorités gouvernementales cèdent à une pression croissante malgré leur engagement à aider les personnes déplacées. Il indique que les agences humanitaires trouvent qu'il est de plus en plus difficile et dangereux d'apporter assistance et protection. Il explique que les humanitaires risquent d'être attaqués sur les routes, de tomber dans des embuscades et de se faire voler leur voiture.
Ce que nous avons demandé, et nous le répétons encore aujourd'hui, c'est une intervention unifiée, stratégique et substantielle au Sahel qui garantira que les efforts internationaux soutiennent les gouvernements et les communautés d'accueil. Et une réponse sécuritaire ne peut prévaloir seule. Elle doit aller de pair avec une action humanitaire et de développement.
Selon M. Tchetcherkov, le HCR est à la tête d'un effort des Nations Unies et des agences privées pour fournir des services d'hébergement et de protection, y compris la lutte contre la violence sexiste.
Amazon installe son siège africain au Cap, un investissement de plusieurs millions de dollars. Promesse de milliers d'emplois. Mais la construction de ces nouveaux bureaux pose un problème car le terrain choisi est situé au cœur des Khoisan, le territoire des premiers habitants de la pointe sud du continent. Les précisions de Delidico.
Le mois dernier, la ville portuaire du Cap a approuvé la construction d'un complexe commercial et résidentiel de 9 étages sur un espace vert en bord de rivière dont le centre névralgique sera le bureau du géant américain de la vente en ligne Amazon. Mais pour certains descendants, des premiers habitants de la région, les peuples Kwa et San, ce projet va profaner leur terre ancestrale. Ils plaident en faveur de l'importance culturelle et environnementale du site.
C'est le plus important combat patrimonial que nous ayons en tant que Sud-Africains. En effet, si nous ne pouvons pas prendre position sur ce que nous considérons comme important dans nos vies et sur les principes pour lesquels nos ancêtres se sont battus à travers le temps, nous nous trouvons face à un défi qui, moralement parlant, sera très difficile à relever.
Pour ses descendants, le site représente leur lutte contre les puissances coloniales. Récemment, ces terres étaient protégées par une désignation patrimoniale provisoire de 2 ans. Elle a expiré en avril 2020, selon la ville.
Il y a une campagne pour défaire tout cela. Et nous appelons à ne pas le faire. C'est inutile. Venez vous asseoir avec le collectif des Premières Nations et discuter de vos préoccupations.
Pour honorer ce patrimoine, le promoteur promet de construire un centre culturel géré par des groupes autochtones comprenant un jardin médicinal, un sentier de randonnée et un amphithéâtre en plein air.
Nous savons que c'est la norme au Cap que les terrains sont vendus aux plus offrants. C'est la norme depuis un certain nombre d'années et si nous continuons à permettre que cela se produise, alors toutes les terres que nous avons vont continuer à être vendues pour le profit.
Pour justifier le projet, la ville met en avant la création d'emplois dans un contexte où le chômage atteignait 29% fin 2020. Mais pour certains descendants de ces terres, cette raison ne justifie pas la perte d'un patrimoine culturel.
Merci Dili Diko. Malgré une série de coups d'État militaires et de répressions de l'opposition dans des dizaines de pays, il y a des signes encourageants de sursaut démocratique dans le monde, selon le dernier rapport annuel de l'organisation Human Rights Watch, publié jeudi. Un reportage d'Henry Ridgewell à Londres, un récit de Jenny Kapumbu-Villa.
Au Myanmar, l'armée a renversé en février dernier le gouvernement démocratiquement élu, emprisonnant le président Win Myint et la conseillère d'État Aung San Suu Kyi. Au Nicaragua, des membres de l'opposition ont été emprisonnés pour trahison avant les élections de novembre, alors que le président Daniel Ortega consolidait son pouvoir. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a été réélu en janvier 2021 après que les forces de sécurité ont arrêté et battu des partisans de l'opposition et des journalistes tué des manifestants et perturbé des rassemblements de l'opposition.
La sagesse conventionnelle de nos jours est que les autocrates sont en hausse et que les dirigeants démocratiques sont en déclin, mais lorsque nous avons regardé l'année dernière, nous avons constaté que cette vision est en fait trop superficielle, trop simpliste.
En effet, il y a des signes encourageants de sursaut démocratique, dit Roth.
Des manifestations populaires pour la démocratie contre l'autocratie. Et nous avons vu cela dans une série de pays, en Thaïlande, au Myanmar et au Soudan, en Ouganda, au Nicaragua, à Cuba, en Pologne. Dans de nombreuses régions du monde, ces effusions de soutien aux droits de l'homme, à la démocratie et contre le régime autocratique.
Mais à travers le monde, des dizaines de milliers de personnes qui ont défendu la démocratie et les droits humains ont été emprisonnées, battues ou tuées. En Russie, le chef de l'opposition, Alexei Navalny, est en prison après avoir survécu à une attaque à un agent neurotoxique. La Chine a enfermé des milliers de militants pro-démocratie.
Maintenir le pouvoir par la force est une stratégie à très court terme. Si vous regardez le Myanmar où la junte a perpétré un coup d'État il y a à peu près un an, tout ce qu'ils ont, c'est la force. Toute la population est contre eux.
Le rapport indique que dans les pays qui autorisent encore des élections raisonnablement équitables, les politiciens de l'opposition et les électeurs deviennent plus sophistiqués.
L'émergence de larges coalitions politiques, des alliances pour la démocratie, et on a vu ces coalitions évincer le premier ministre Babis en République tchèque, elles se sont débarrassées de Netanyahou en Israël, elles étaient vraiment derrière la coalition qui a choisi Joe Biden pour contester Donald Trump. Et aujourd'hui, en Hongrie et en Turquie, le Premier ministre Orban et le président Erdogan sont confrontés à de larges coalitions similaires qui mettent vraiment en danger leur emprise sur le pouvoir.
Human Rights Watch affirme que les dirigeants des pays démocratiques doivent mettre fin à leur soutien des régimes autocratiques comme en Arabie Saoudite ou en Égypte et faire un meilleur travail pour servir leur propre peuple face à d'énormes problèmes comme la pauvreté, la pandémie de COVID-19 et le changement climatique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'héritage de Martin Luther King et le débat actuel sur le droit de vote aux États-Unis. Le pasteur et auteur du célèbre discours « J'ai fait un rêve » a été célébré cette semaine pour commémorer l'anniversaire de sa naissance et faire le point sur les droits civiques en Amérique. Si beaucoup d'avancées ont été notées depuis sa mort en 1968, les questions liées aux droits civiques et à l'égalité font toujours partie du débat public. Quelle lecture peut-on faire de l'héritage de Martin Luther King aujourd'hui, au moment où l'administration Biden tente de faire adopter une loi fédérale pour, dit-elle, protéger le droit de vote. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur voafrique.com.
Les États-Unis, il faut le préciser, c'est hier que les États-Unis ont célébré la journée Martin Luther King en hommage au pasteur noir américain, leader assassiné du mouvement des droits civiques. Les questions de justice sociale continuent de jouer un rôle central dans la politique américaine. Un reportage de Laurel Bauman, relaté par Abdourahmane Dia.
Et je veux dire au peuple américain et aux nations du monde, nous avançons et aucune vague de racisme ne peut nous arrêter.
L'ascension de Martin Luther King Jr. en tant que leader des droits civiques a commencé en 1955 lorsqu'il a dirigé la campagne en faveur de la déségrégation des bus publics dans l'État de l'Alabama. Il a ensuite dirigé des mouvements pacifiques en faveur de l'égalité des droits. En 1964, Dr. King a remporté le prix Nobel de la paix. La même année, le président américain Lyndon Johnson a signé le Civil Rights Act et l'année suivante, le Voting Rights Act. Ces lois ont interdit la ségrégation raciale dans les lieux publics et les pratiques discriminatoires qui empêchaient les Noirs de voter.
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur caractère.
Cette semaine, le ministère américain de la Justice a rendu hommage au Dr. King dans un forum virtuel. Christine Clark est procureure générale adjointe pour les droits civiques au ministère américain de la Justice.
Dr. King a eu un impact sur toutes nos vies et son héritage d'espoir et son engagement farouche en faveur de la justice et de l'égalité reste présent dans notre travail quotidien à la division des droits civiques.
De nombreux leaders du mouvement des droits civiques affirment que la lutte de Dr. King pour l'égalité des droits de vote reste d'actualité. Sherilyn Ifill est membre de l'organisation des droits civiques NAACP.
Voici ce que dit le Dr. King. Donnez-nous le bulletin de vote pour que nous puissions élire des juges qui seront justes. Donnez-nous le bulletin de vote pour que nous puissions élire des personnes qui comprendront ce qui est censé être un programme de justice pénale.
La semaine dernière, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont rendus au lieu de sépulture de Martin Luther King Jr. dans l'État de Géorgie, où Biden s'est exprimé sur le débat national en cours sur le droit de vote.
Ce n'est pas seulement ici, en Géorgie. Rien que l'année dernière, 19 États n'ont pas proposé, mais promulgué 34 lois attaquant le droit de vote. Il y a près de 400 projets de lois supplémentaires que les républicains ont tenté de faire adopter au niveau des États. Il ne s'agit plus de savoir qui peut voter. Il s'agit de rendre le vote plus difficile. Il s'agit de savoir qui compte le vote et si votre vote compte du tout.
Les républicains rejettent les critiques de Biden, affirmant que leur camp cherche à protéger et non à restreindre le vote en Amérique. Ils se disent également alarmés par les propositions visant à modifier les règles du Sénat pour adopter une nouvelle loi nationale sur le droit de vote sans le soutien des républicains.
King a été assassiné en 1968, mais des décennies plus tard, ses célèbres paroles inspirent encore beaucoup à continuer à travailler pour la justice raciale, une question qui reste au cœur du dialogue national aux États-Unis.
Fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia, John Linden, George Léonard Sagnot et Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.